Philippe, Métaphysique à Fribourg, le 14 décembre 82, premier cours.
Nous étions arrivés à ce problème de la distinction dans l'ordre de ce qui est entre la substance et la qualité. Substance et accident, ce qu'on dit habituellement. Mais en réalité, il ne faut pas trop dire accident, parce qu'alors, on risque de prendre un peu la distinction sujet et accident. Voyez, alors je crois qu'il vaut mieux dire la distinction entre l'ousia comme substance et puis toutes les autres déterminations. Toutes les autres déterminations qui, de fait, sont relatives à l'ousia. Alors, parmi ces déterminations, la première, je crois, au niveau proprement philosophie première, c'est ou la qualité ou la relation. On peut mettre l'un ou l'autre. J'avais commencé par vous dire la relation. On peut mettre aussi la qualité, parce que, de fait, la qualité est d'une certaine manière, au niveau proprement métaphysique, elle est d'une certaine manière plus immédiate par rapport à l'ousia. La relation implique toujours une autre détermination. Donc la relation n'est pas immédiate. On va quand même essayer de regarder ce qu'est la relation, puis après je regarderai ce qu'est la qualité et ce qu'est la quantité. Je crois qu'on a été resté là, n'est-ce pas ? Alors, on va regarder rapidement ce que c'est que la relation. Je ne peux pas faire un cours long sur la relation. On m'a demandé au moins de regarder le point de vue de l'acte et de la puissance, et c'est pour ça qu'on doit aller assez vite sur ces déterminations secondaires, qui sont très importantes, parce que de fait, on ne les a pas beaucoup regardées dans l'histoire de la pensée. La relation, elle prend toute sa dimension, par exemple, dans la philosophie d'Hamelin. Ceux qui veulent regarder dans Hamelin, ils voient que dans ce néo-hégélianisme transformé par les mathématiques, Hamelin était un mathématicien, de voir comment, de fait, la relation prend le primat sur le point de vue de la substance. L'être va s'identifier avec la relation. Et quand vous regardez quelqu'un comme Merleau-Ponty, qui n'est pas un mathématicien, qui est dans la suite de Hegel, c'est évident, Merleau-Ponty dira « L'être, c'est un tissu de relations. » C'est aussi très significatif. Pour beaucoup aujourd'hui, à la suite de Hegel, la substance disparaît et laisse place à la relation. Et c'est en ce sens-là, vous voyez, que je mets la relation sitôt après la substance. C'est parce que, de fait, au point de vue histoire de la pensée, on peut dire que si la substance est évincée, alors la relation prend une place primordiale. Et que ça existe. C'est peut-être le caractère propre d'une philosophie idéaliste. Ou d'une philosophie, si vous voulez, qui commence par le primat des idées. Je crois que quand il y a le primat des idées, tout de suite, la substance est évincée, il ne reste plus que la relation. Alors ça, c'est important de le saisir, parce que ça nous fait comprendre comment seul le primat de l'être permet de découvrir le point de vue de la substance. C'est normal, puisque la substance est principe dans l'ordre de ce qui est. Principe selon la forme, dans l'ordre de ce qui est. Donc, si elle est principe dans l'ordre de ce qui est, elle ne peut être qu'à partir de ce qui est. Dès que je quitte la primauté du réel, réel autre que ma pensée, hein, comprenez bien ça, hein, ce réel autre que ma pensée, c'est-à-dire un réel qui est sur ma pensée. Dès que je suis en dehors de ce qui est, immédiatement, c'est le primat de l'idée. Pour Descartes, c'est le primat de l'idée. Pour Kant, le primat de la connaissance, c'est le primat de l'idée. dès qu'on est en présence du primabilité, c'est la relation qui... Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que l'idée, au point de vue de l'être, intentionnel. C'est une forme intentionnelle, l'idée, le concept. Or, une forme intentionnelle ne peut pas être substantielle, ce serait contradictoire. Parce que qui dit forme intentionnelle dit forme relative. Et la scolastique dira relation transcendantale. Alors, si ça dit une relation transcendantale, ça dit un ordre relatif. Ça dit quelque chose de second. L'idée n'est jamais première dans l'ordre de l'être. Elle ne peut être que second. De sorte que s'il y a un primat de l'idée, nécessairement, tôt ou tard, la substance est évincée et il ne reste plus que la relation. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est déjà présent chez Descartes. Mais comme Descartes est très dépendant de la tradition, et que la tradition maintient la substance, nécessairement Descartes maintient la substance pensante. Il maintient la substance matérielle, quantitative. Il maintient donc la substance. Mais en réalité, c'est illogique avec son système. Et c'est, je crois, toujours ça qui est toujours très intéressant, c'est de voir dans un système l'illogique du système, parce que ça prouve tout ce qu'on reçoit du passé et ce qu'on rajeunit soi-même au-delà du passé. Et qu'on n'a pas suffisamment d'audace intellectuelle, étant donné qu'on découvre quelque chose de nouveau, c'est le reste. Et d'essayer d'avoir un système qui tient logiquement. Hamelin, ça se tient logiquement. Descartes, ça ne se tient pas logiquement. Oui, c'est intéressant à faire. Du reste, le parallélisme, c'est très intéressant à faire parce que c'est un peu deux extrêmes de la pensée. Extrêmes de la pensée qui sont tous les deux avec un très grand désir de logique. Parce que Descartes, quand même, aime la logique. Il désire que ce soit clair et distinct. Et alors, cependant, ce n'est pas clair et distinct. Pourquoi ce n'est pas clair et distinct? Parce qu'il y a tout le poids de la tradition scolastique que Descartes n'évince pas. Il ne pouvait pas l'évincer, comme dit Sartre. Il était encore trop croyant pour évincer ce poids de la scolastique. Alors il l'a gardé. Il a gardé ce poids de la scolastique en prenant le contre-pied d'Aristote. Et il le dit. Il le dit textuellement. Donc c'est intéressant de voir cette espèce de contradiction. Et je crois que c'est cette contradiction qui expliquerait tout Descartes. Vous savez bien que lorsqu'il s'agit de Descartes, il y a deux grandes thèses. Il y a des positions très différentes. Parce que justement, Descartes implique quelque chose qui n'est pas logique. On peut très bien considérer Descartes dans deux perspectives tout à fait différentes. Alors, c'est intéressant d'essayer de voir d'où viennent ces deux perspectives différentes. Sa contradiction vis-à-vis d'Aristote, et vous savez bien ce qu'il dit, à la place de mettre le to-oti en premier lieu et le ti-esti en second lieu, il faut mettre le ti-esti en premier lieu et le to-oti en second lieu. Donc, l'essence, en gros, la quidité, l'intelligibilité prime le point de vue de l'existence. Voilà la position de Descartes. C'est dit explicitement, ça. Donc c'est pas une interprétation. C'était Descartes qui le dit. Et malgré ça, Descartes maintient la substance. Donc c'est contradictoire. Tandis que si vous regardez Hamelin, vous avez là un très beau système logique. Ceux qui aiment la logique et qui aiment penser un peu mathématique, c'est une manière d'entrer en philosophie que de lire Hamelin. C'est très beau, c'est très séduisant. Alors il n'y a plus du tout de substance, il n'y a plus que la relation. C'est la relation qui est au cœur de toute la philosophie. Et on comprend, puisque c'est un primat de l'intentionnalité, et comme c'est un primat de l'intentionnalité, c'est peut-être la seule méta-mathématique qu'on puisse faire, vous voyez. celle d'Hamelin. C'est une métamathématique. Parce que c'est vraiment une pensée du possible, mais poussée à l'extrême jusqu'au bout. Or, ça devient la relation, qui devient le constitutif le plus fondamental de l'être. Donc, ceci, c'est pour vous montrer l'importance du même de la relation. Parce que si on dialogue toujours, si le philosophe doit toujours dialoguer avec d'autres philosophes, il doit comprendre que ce problème de la relation encombre la philosophie d'une façon remarquable. De manière telle que ça devient une avalanche chez Hamelin, puisque tout est bouché. Si la relation est première, si la relation est constitutive de l'être, vous restez enfermé dans l'idéologie. Et au fond, pour toute l'idéologie, je crois qu'on peut dire ça, pour toute idéologie organisée et consciente, on doit évacuer la substance et on doit mettre le primat de la relation. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir la philosophie de ce qui est, de l'être, qui affirme le primat de la substance et n'évacue pas la relation, tandis que les idéologies qui mettent un primat des idées manifestent le primat de la relation d'une manière telle que la substance est évacuée. Une fois de plus, vous voyez que la philosophie de l'être peut rendre compte des idéologies, tandis que les idéologies ne rendent compte pas de la philosophie de l'être. C'est toujours très important de voir ça, parce que c'est intéressant de voir le combat des animaux, n'est-ce pas? Comment le gros avale le petit, n'est-ce pas? Et comment le petit est avalé dans le gros. Alors c'est intéressant de voir, quand vous voyez les deux grands aspects de la philosophie, de la métaphysique, la philosophie de ce qui est et les idéologies, attendez le bon moment. Quand l'un et l'autre diront, ah, le noyau central de l'être, c'est la substance. Le noyau central de l'être, c'est la relation. Si vous dites que le noyau central de l'être, c'est la relation, vous évacuez la substance. Si vous dites que le noyau central de l'être, c'est la substance, vous n'évacuez pas la relation. Donc vous avez quand même un petit avantage. De l'ordre de l'extension, pas plus, hein, mais de l'ordre de l'extension, c'est déjà quelque chose. C'est celui-là qu'on proclame le plus et le mieux. C'est quand on peut aller plus loin dans l'ordre de l'extension, quand on fait des voyages à l'égard de pays nouveaux, tandis que quand on s'enferme derrière ses frontières, ça ne va pas, n'est-ce pas? Si à l'horizon de la mer, ça peut aller, on ouvre, n'est-ce pas? Alors on voit très bien ça. Et alors la philosophie de l'être, grâce à la substance, peut regarder la relation, tandis que la philosophie de la relation ne regarde pas la substance. Alors, faites toutes les applications possibles. C'est ça qui est intéressant. Alors, nous allons continuer de regarder ce que c'est que la relation. Après avoir vu l'importance de la relation, puisque dans les idéologies, la relation est première. Donc, vous ne pouvez pas vraiment comprendre les limites de l'idéologie tant que vous n'avez pas fait une philosophie première de la relation. Et donc, en faisant la métaphysique de la relation, en essayant de comprendre ce que c'est que la relation, et en voyant que la relation est nécessairement quelque chose de second, vous voyez que l'idéologie veut se construire en absolu sur quelque chose de second. Et quand on veut se construire en absolu sur quelque chose de second, ça ne va plus. Il y a une contradiction interne. Ça ne peut pas être autrement. Et alors la grande manière, c'est de dire qu'on est au-delà de la contradiction. Et c'est ce que font les idéologies. On est au-delà de la contradiction. Pour ne pas dire qu'il y a une contradiction interne. Alors le combat vient sur ce point de vue-là. Est-ce que l'intelligence humaine peut être au-delà de la contradiction? Vous voyez, c'est curieux cette espèce d'enchaînement qu'il y a de fait à l'intérieur même de ce dynamisme particulier des idéologies et de ce que représente au contraire le cheminement d'une pensée réaliste, d'une pensée qui cherche le réel. Dans une perspective d'une philosophie de ce qui est, regardons d'abord ce qu'Aristote dit sur la relation. très rapidement, mais il dit des choses intéressantes. Il dit des choses difficiles. Alors je vous renvoie, à ceux qui ont beaucoup de courage, au livre de Krempel. Alors il l'a fait pour saint Thomas, mais forcément il y a des allusions à Aristote. Le livre de Krempel sur la relation. Il a mis 9 ans à l'écrire, et en déclarant que c'était par le fait même une œuvre parfaite. Donc Krempel donne un livre sur la relation pour montrer, il y a une thèse, hein, c'est une thèse, pour montrer que la relation transcendantale est scotiste et non pas thomiste. Et donc, quand les thomistes ont voulu avaler la relation transcendantale scotiste, les thomistes n'ont plus gardé la pureté du regard. Et c'est très scolastique comme thèse, hein, puisque c'est la vieille thèse d'opposition entre les thomistes et les scotistes. Et alors on le prend du côté de la relation transcendantale. C'est amusant à lire, hein. Et puis il a relevé tous les textes, enfin, presque tous, pas tous, mais presque tous. Et il a relevé ça. Alors c'est intéressant, il faudrait le refaire entièrement, ce livre. Pas en 9 ans, mais un peu plus rapidement, n'est-ce pas? Puisqu'il depuis il y a un progrès. Alors il faudrait refaire entièrement ce livre, parce que de fait c'est une thèse qui est fausse. On va essayer de comprendre. Une thèse qui est fausse, mais qui est intéressante, parce que ça fait partie des topics. Donc, quand Aristote parle de la relation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il en parle dans les catégories. Les catégories, je vous l'ai déjà dit, c'est un livre qu'il faut lire le plus vite possible. Les catégories d'Aristote, on les lit, on les relit, parce que c'est quand même très important. Eh bien, dans les catégories d'Aristote, Aristote définit le relatif. Il ne parle pas de la relation, Aristote. Il parle du pros, du prosti. Ce qui est relatif, ce qui est vers. Le relatif, c'est ça, c'est celui qui est tourné vers. Eh bien, il parle du prosti en disant que le prosti, justement, c'est celui dont l'être est tout entier relatif à un autre, c'est-à-dire tourné vers un autre. C'est celui qui, par le fait même, en tant que relatif, n'a aucune autonomie. C'est le propre du relatif. Il n'a aucune autonomie. Il ne peut pas en avoir, puisqu'il est tout entier tourné vers un autre. Si vous êtes tout entier tourné vers un autre, vous n'avez plus d'autonomie. Vous voyez, l'amoureux est tout entier tourné vers celui qu'il aime. Et il n'a plus aucune autonomie. Il est amoureux. Donc, il est relatif à l'autre. Nous y reviendrons là-dessus, je prends ça exprès. Aristote ne le dit pas. C'est très intéressant de voir là, psychologiquement, on comprend ça très bien. Dès qu'on aime quelqu'un, on est tourné vers. Alors, Aristote va aller plus loin dans les catégories, et va essayer de saisir le to einai. Qu'est-ce que c'est que l'être du prosti? Alors là, il y a un passage très intéressant qui a donné du reste beaucoup d'interprétations, qui est intéressant, où Aristote essaie de préciser d'une manière plus profonde l'être de ce qui est relatif. Et Aristote montre bien que l'être du relatif, c'est justement d'être, là encore, tourné vers l'autre. Mais dans cette première définition, il montre un peu le relatif dans toute sa rarité. Le demi est relatif à l'entier. Les trois quarts sont relatifs, et ainsi de suite. Vous voyez, dès que vous trouvez n'importe quoi, dans le langage, quand vous dites celui-là, il a la moitié d'un autre. Donnez-moi la moitié de ce pain. C'est relatif, puisque vous relativisez la moitié en fonction de l'autre. Puisque si l'autre est très grand, la moitié sera grande. Tandis que si l'autre est tout petit, la moitié sera toute petite. Donc la moitié peut être toute petite, elle peut être très grande. Ça ne le dit pas, parce que justement le relatif n'a pas de contenu en lui-même, il est dépendant d'un autre. Et c'est l'autre qui le spécifie, c'est l'autre qui lui donne sa détermination. Et puis il y a un texte très important d'Aristote, je vous donnerai la référence, je ne l'ai pas ici, un texte très important d'Aristote dans les topiques, où Aristote dit que le relatif, c'est l'être le plus débile. C'est très intéressant de voir ça. C'est un être qui n'a pas de consistance en lui-même. Donc il est toujours obligé de s'appuyer sur une canne. Il ne peut pas marcher tout seul. Et c'est ça, la débilité de l'être. C'est un être qui est tout le temps courbé sur un autre. Un être qui est tout le temps ordonné à un autre. C'est ça la débilité d'un être. Alors Arisat dit que le relatif, c'est l'être le plus débile. Parce que c'est l'être le plus débile, c'est l'être le plus difficile à saisir. Donc, Aristote a été attentif au relatif, mais il n'a pas fait une philosophie de la relation. Celui qui a beaucoup, beaucoup développé la relation, c'est saint Thomas. Ça, il faut le reconnaître. Hein. Vous voyez, quand on se demande toujours ce que saint Thomas apporte de nouveau à Aristote, parce que ça fait partie de... Eh bien, certains disent que c'est du côté de l'être, Maritain, par exemple, dit que c'est du côté de l'essai. Que saint Thomas a découvert l'essai qu'Aristote n'avait pas découvert. Je crois qu'il faudrait beaucoup mieux dire que c'est du côté de la relation, où il y a quelque chose de nouveau. Il faudrait beaucoup mieux dire que c'est du côté de la bonté, où il y a quelque chose de nouveau. C'est du côté de la bonté, du côté de la relation, je crois que saint Thomas apporte quelque chose de nouveau par rapport à Aristote. On va tout de suite... Saint Thomas est avant tout un théologien. Or, dès que vous placez du côté de la théologie, la relation prend une valeur tout à fait unique. Dans la très sainte Trinité, alors voyez les lieux, on va les voir, c'est simplement pour vous renvoyer à cela. Renvoyer à cette... Dans la très sainte Trinité, saint Thomas va définir dans la relation le « in » et le « a ». Le « in », c'est la relation vers le sujet relatif. Pierre est semblable à Jacques, au point de vue de son intelligence. Il est semblable à Jacques. Alors, le sujet Pierre, semblable à Jacques du côté de son intelligence, c'est son intelligence qui innerve dans ce sujet Pierre. Et il est semblable à Jacques, donc tout entier relatif à Jacques. La similitude renvoie à l'autre. Et donc il y a l'art. Ça, c'est une distinction que vous ne trouvez pas chez Aristote. C'est une distinction que saint Thomas, je ne dis pas inventée, ce serait intéressant à voir d'où ça vient. Je crois qu'il vient de... que certains prétendaient que la relation n'ajoutait absolument rien dans la réalité. C'était pour répondre à ça. Parce qu'il y a toute une théorie juste inverse d'Hamelin. C'est de dire que la relation, c'est de la super. C'est imaginatif. Vous jouez la relation, mais la relation n'ajoute rien du tout en l'être. Et on comprend très bien qu'on dit ça. Vous êtes assis. À côté de vous, il y a quelqu'un qui est assis. Vous êtes semblable dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous vous levez, l'autre ne se lève pas, la similitude disparaît. Donc, la relation disparaît, vous n'allez pas bouger. Donc, c'est la futesse. Parce que ça, l'autre change, et puis vous restez. Hein? C'est un très grave problème, il n'y a qu'à réfléchir là-dessus. Vous voyez la débilité de l'être relatif. Vous êtes tout entier relatif à l'autre, l'autre change, il bouge. Ou bien prenez autre chose, si vous voulez, deux qui pèsent 110 kilos, parce que ça va mieux, ça on voit, on comprend mieux. Ils ont égalité de poids, 110 kilos. Et puis il y en a un qui fait une crise d'amaigrissement. Alors il pèse plus de 100 kilos. Donc il n'y a plus d'égalité. Et lui garde toujours 110 kilos. Donc il n'a pas changé. Et il y a une relation en moins. Donc c'est une relation en moins et qui n'a pas changé, ça prouve que la relation n'ajoute rien. Oui. C'est très bête ça. Et c'est pas si commode que ça de répondre. C'est vrai, la relation c'est un jeu de l'intelligence. C'est l'intelligence qui réunit deux qui sont assis l'un à côté de l'autre. C'est l'intelligence qui voit que... ils ont 110 kilos, ben c'est évident, c'est l'intelligence qui fait ça, c'est l'intelligence qui m'est égale. Alors, il y a eu toute cette théorie chez les théologiens de dire que la relation n'ajoutait rien. La relation, c'est rien du tout. Donc, vous avez les deux thèses extrêmes. Ou la relation, c'est rien, ou la relation, c'est le constitutif de l'être. Hamelin, et puis là, les théologiens qui disent que la relation, c'est rien du tout. Alors, on comprend qu'en face de ça, on dit, ah, attention, dans la relation, il faut considérer deux choses. Il y a le « in » et le « ad ». Et c'est tout ce que saint Thomas va faire. Il y a le « in » et le « ad ». La relation est relative à un sujet qu'elle qualifie, et elle est relative à un autre. Elle est enracinée dans un sujet, vous n'avez qu'à prendre n'importe quelle relation. Je prends la relation de similitude. Hein. Ils sont assis. Le « in », c'est quoi? C'est d'être assis. Tous les deux, Pierre et Jacques, sont assis. La similitude, c'est qu'ils sont assis en même temps. C'est ça la grosse question. Donc, ils sont semblables dans leur situation. La même chose pour le poids. Le poids, c'est la quantité. Il pèse 110 kilos, il pèse 110 kilos, c'est réel, 110 kilos. Mais on les met l'un à côté de l'autre, et on dit égal. Alors là, vous ajoutez quelque chose. Vous ajoutez égal. Donc, vous voyez, il y a le in et le ad. Et alors, toute l'astuce de saint Thomas, au point de vue théologique, c'est de montrer que lorsqu'il s'agit de transposer la relation en Dieu, on laisse tomber le in et on ne regarde que le ad. Alors, vous êtes en face d'un pur ad. Voilà comment on transpose la relation en Dieu, en disant que le ad en Dieu se suffit. Il est donc substantiel. Et vous avez une relation substantielle, une relation qui subsiste en elle-même. Ça, c'est la synthèse, vous voyez, du réalisme et de l'idéalisme. C'est la synthèse merveilleuse de voir que la relation est substantielle. Et c'est vrai, quand vous regardez le traité de la très sainte Trinité dans saint Thomas, vous voyez que tout repose là-dessus. C'est une petite distinction, parce que le in, vous comprenez, fait que le relatif le ad ne fait pas que le in est accident, puisqu'il est tourné vers l'autre. Il est pros. Il est vert. Mais on peut être vert, dire qu'on est accident, on est vert. On est tourné vert. Donc, le in insiste sur l'aspect de dépendance à l'égard du sujet. Or, en Dieu, il n'y a pas d'accident. Donc, je dois nécessairement laisser tomber le « in » si j'attribue la relation à Dieu. Et je ne garde que le « ad ». Et comme le « ad » en Dieu, qui est attribué à Dieu, est Dieu lui-même, et que tout en Dieu est substantiel, que tout en Dieu est acte pur, il faut nécessairement dire que cet « ad » il subsiste en Dieu. Et c'est quelque chose de très très poussé au point de vue purification. Je crois que c'est la plus grande des purifications que de fait on trouve dans la somme théologique de saint Thomas. C'est le sommet de la purification. Ça. D'arriver à séparer le « in » et le « ad ». Alors vous voyez, ceci, ça n'a l'air de rien, c'est de montrer comment le Père, si je veux essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le Père dans la très sainte Trinité. Le Père, il est tout entier tourné vers le Fils. Et le Fils, il est tout entier tourné vers le Père. Et ils sont une seule réalité existante. Et le Père est tout entier relatif au Fils. Et le Fils est tout entier relatif au Père. Comment donc saisir ce qui caractérise le Père? Ça ne peut être que la relation paternité. Et qu'est-ce qui caractérise le Fils? Ça ne peut être que la relation filiation. Parce que la relation a ceci de tout à fait particulier, c'est que la relation n'implique pas par elle-même de qualité. La relation est en dehors de l'ordre de la perfection. En elle-même, pas à cause de son fondement, pas à cause de l'huile, mais en elle-même, la relation est en dehors de la perfection. Donc je peux dire que le Père est seul Père, que le Fils est seul Fils, et ils sont cependant un. Ils ont la même perfection. Et le Père n'est pas plus parfait que le Fils parce qu'il est Père. Et le Fils n'est pas plus parfait que le Père parce qu'il est Fils. Ils sont un dans la vie. C'est le mystère de la très sainte Trinité. Et à l'intérieur, et on distingue des personnes. Et cette distinction, elle se fait grâce à ce petit instrument métaphysique de l'ad. C'est-à-dire de la relation prise dans toute sa pureté. La relation purifiée de son in. Bon, on voit que ça montre que saint Thomas a réfléchi longuement sur la relation pour pouvoir arriver à ça. Donc, dans le traité de la très sainte Trinité, vous retrouvez la relation qui a une place très importante dans le traité de la création. Parce que dans le traité de la création, on va dire que la créature est toute relative au créateur. On va maintenir l'autonomie de la créature parce qu'elle a une substance. Et on va en même temps dire qu'elle est totalement relative au Créateur. Vous voyez ? Alors là encore, un autre problème, c'est pas du tout le même que la très sainte Trinité, mais c'est un même problème. C'est un problème de voir l'autonomie, l'unité et être relatif. Dans la très sainte Trinité, il faut comprendre l'unité et à l'intérieur de l'unité, la diversité. La distinction. Pas la diversité, mais la distinction. Et il faut, à l'égard de la création, comprendre l'autonomie de la créature est autonome, elle a quelque chose de substantiel, elle est une personne, elle est un vivant, donc elle a quelque chose d'autonome, et en même temps elle est totalement dépendante. En tant que créature, je suis tout entier relatif à Dieu, et en tant que moi-même, je ne suis pas relatif, je suis moi, j'ai mon autonomie. Mais comme c'est important d'essayer là de bien comprendre comment la créature peut être Pierre. Quand je dis Pierre, je ne dis pas créature, je dis Pierre. Quand je dis créature, je ne dis pas Pierre. Pas la même chose. Quand je dis Pierre, je regarde sa personne, la dignité de sa personne, l'autonomie de sa personne, sa capacité de poser des actes libres. Donc il est autonome, autrement il ne pourrait pas poser un acte libre. Et quand je dis créature, je le considère comme totalement relatif au Créateur. Alors il s'agit de préciser le caractère propre de cette relation de créature. La créature se définit par une relation, comme créature. Alors que Pierre, une personne, se définit par la substance. Vous voyez, le jeu de la substance et de la relation. Le jeu de la substance et de la relation, vous le voyez dans la très sainte Trinité. Et vous le voyez ici, à propos de considérer comment une substance peut être créée. Quand on le dit comme ça, ça va très bien, mais il fallait quand même essayer de comprendre comment une substance peut être créée. Comment une substance qui implique une autonomie peut être totalement relative à un autre. Ça a l'air contradictoire à premier lieu. Ce qui est autonome n'est pas relatif. Alors, est-ce que les substances que nous découvrons en métaphysique, c'est des petites substances tout à fait secondaires, c'est pas des substances, c'est pas ça du tout. C'est la dinette des substances, c'est pas sérieux, quoi. Vous dites substance et puis vous dites que c'est créature. Alors on comprend très bien l'ontologisme qui a supprimé le point de vue de l'autonomie pour ne regarder que la relation. Vous comprenez le point de vue relatif. C'est très important de saisir ça, parce que c'est des problèmes clés, ça. Et là, on retrouve le problème de la relation chez saint Thomas pour le mystère de l'union hypostatique. On comprend que il s'agit d'une union, il s'agit d'essayer de comprendre comment la nature humaine est totalement assumée par. Donc on retrouve la relation comme clé des grands traités. C'est très intéressant de voir ça. Saint Thomas parle de la relation encore pour autre chose, mais c'est là. Alors, on comprend que le théologien passe du relatif à la relation. La relation, c'est l'abstrait du relatif. Blancheur, n'oubliez pas ça. Donc, relation, c'est l'abstrait du relatif. On essaie de comprendre ce qu'est le relatif, ce par quoi le relatif est relatif. La relation. Qu'est-ce que c'est que la relation ? La relation est donc une forme mais extraordinairement débile, extrêmement difficile à préciser. C'est une forme, la relation. C'est un arbre. C'est quelque chose de tout entier tourné vers. Chose de tout à fait particulier. Vous êtes obligé de dire que c'est une forme, c'est bien une détermination. Alors bon, Aristote, saint Thomas, nous sommes nous en face d'Hamelin qui dit que la relation c'est l'être. Alors comment allons-nous aborder le problème de la relation ? Bien, je crois, comme toujours au point de vue philosophique, après avoir regardé ce que les philosophes disent, nous devons faire de la philosophie. Pas seulement répéter, essayer de comprendre. Alors, quel est le meilleur moyen de comprendre ce que c'est que le relatif, ce que c'est que la relation ? Faites appel à vos expériences. Il y a une grande expérience à laquelle on revient tout le temps, c'est l'amour d'amitié. C'est l'amour d'amitié qui nous fait le mieux comprendre ce que c'est que la relation. Parce que ça, c'est une relation vécue. C'est une relation vécue. Vous voyez, je ne prends pas l'égalité, parce que dans l'égalité, vous êtes coincé. Il maigrit, je reste avec mon poids, seul. N'est-ce pas ? Donc, je sais pas ce que c'est que l'égalité. C'est très très beau l'égalité pour les propagandes. Mais dès qu'on veut regarder, on voit que ça parce que ça n'existe pas, l'égalité. Ça n'existe que dans un monde tout à fait particulier d'abstraction. Et là, on fait de l'abstraction. Et c'est toujours comme ça qu'on fait des propagandes, parce qu'on se réfugie dans les abstractions de la propagande, en faisant croire. Comme ça, personne ne peut nous attaquer. Tandis que quand on est dans le réel, on monte des chiffres. On monte la réalité. C'est très curieux. L'égalité joue un rôle énorme au point de vue propagande. L'amitié ne joue aucun rôle au point de vue propagande. C'est une expérience. C'est autre chose. Vous savez bien que dans l'amitié, il n'y a pas d'égalité. Dans l'amitié, c'est autre chose. C'est une complémentarité, c'est une similitude, c'est tout à fait différent. Alors je crois qu'il faut partir de l'amitié si on veut comprendre un tout petit peu ce que c'est. Bon, après, on regardera tous les autres types de relations. Mais l'amitié nous montre quelque chose de très particulier. Dès qu'on aime, on est relatif à celui qu'on aime. Et l'amitié a ceci de particulier, parce que c'est un amour d'amitié, l'amitié a ceci de particulier, c'est que on est en présence de deux relations mutuelles et réciproques. Deux relations qui se croisent. En tant qu'ami, je suis relatif à mon ami, et mon ami, en tant que mon ami, est relatif à moi. Alors vous voyez la position de débilité extrême de ces deux relations qui se conjoignent. C'est extraordinaire, la fragilité de l'amitié. Puisque de fait, vous avez dit que c'est un être débile, et là, vous définissez les deux amitiés comme ils s'embrassent dans la débilité. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ils sont relatifs l'un à l'autre. Tout entier relatif l'un à l'autre. Il est had, il est had. Et cependant, il n'y a rien de plus fort. Un frère uni à son frère est comme une tour. C'est curieux, ces choses-là. C'est extraordinaire de voir ça. C'est assez étonnant de voir que, de fait, l'expérience que j'ai de l'amitié, c'est vrai que l'amitié est fragile. Je suis pas seul dans l'amitié. C'est toujours l'autre qui est un peu gênant. C'est toujours l'autre. Enfin, l'enfer, c'est l'autre. C'est évident. C'est l'autre. Dans l'amitié, moi, je veux aimer quelqu'un et puis, oui, en lui, à peu près, mais pas tant que ça. Alors j'ai beau, si j'étais seul, je pourrais me construire au moins. Je peux me construire seul, mais là, je suis relatif. Je suis tout entier relatif. Et plus j'aime, plus je suis relatif. Plus je suis dépendant. Alors, c'est très ennuyeux, ça. Parce que tout dépend de l'autre. La réciprocité de l'autre. Il faut saisir, ce que représente l'amitié, cette réciprocité de deux amours. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amitié, au point de vue profond ? C'est donc une relation d'une personne à l'égard d'une autre personne. Cette relation prend des caractères très différents. Il y a divers types d'amitié. C'est toujours la relation. Ah, vous voyez là, tout de suite, que pour préciser ce que c'est que l'amitié, vous ne pouvez pas regarder que la relation. Du reste, on pourrait faire appel là à la chose très très simple. Nous avons tous beaucoup de relations. Nous sommes un petit noyau et nous avons des tas de relations. Alors je mets l'intensité de la relation suivant le temps de vie. Puis j'ai des relations énormes, mais pas très bien. J'ai des tas de relations. Comment caractériser ces relations? La carte de visite de chacun. Les relations. Alors on ne met pas l'intensité, ça se met pas en avant. Ça se garde dans le fond du cœur. Mais enfin, les relations multiples. Bien, les relations multiples, comment caractériser les relations? Elles se caractérisent non pas par la relation, puisque c'est toujours la relation. Et l'intensité des relations ne se caractérise pas par la relation, mais par ce qu'on va appeler le fondement de la relation. C'est pour ça que je distingue une amitié de voyageurs. J'ai voyagé dans le train avec quelqu'un, on a parlé toute la nuit. Eh bien oui, il y a une relation d'amitié qui sert. C'est bien évident. Il m'a vidé son sac. Mais ça, donc, et le fondement, c'est moi qui l'ai reçu. N'est-ce pas? Ça forcément. Mais il a vidé, moi je l'ai reçu. Alors, vous voyez, ça, c'est la relation. La relation qui n'est pas très mutuelle, puisque l'un reçoit et l'autre donne, n'est-ce pas? Mais elle peut être aussi mutuelle, parce qu'une confidence en appelle une autre, et ainsi de suite. Alors, c'est relatif. Vous voyez? Une relation appelle une relation. N'est-ce pas? C'est le fait d'une relation qui appelle une autre relation. Alors, les relations impliquent toutes un fondement de relation. Et c'est le fondement de la relation qui donne le caractère particulier de la relation. Alors vous avez donc la relation qui implique deux termes, le fondement de la relation et le sujet de la relation. Bon, nous préciserons ça tout à l'heure. Attendez une seconde, il y a une question pour ce soir, pour voir s'il y a telle ou telle place.
Alors c'est... On a le choix entre deux salles, le cinéma de 15h à 16h et la salle 3120 de 16h à 17h. Alors si tous les étudiants souhaitent que les deux heures se suivent cet après-midi, c'est-à-dire de 14h à 16h, on aura la deuxième heure.
Ça n'a pas d'importance le lieu, on fera de la mine.
Donc la deuxième heure, ce sera le cinéma. La première heure, ça ne change pas.
14h15.
La salle habituelle.
Salle habituelle, c'est-à-dire
3120.
Et puis ensuite, vous n'aurez qu'à suivre le troupeau et il nous montrera où se trouve la salle de cinéma.